André Limbushima au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange. La police a signalé 7 cas d'avortement clandestin en l'espace des 3 mois à Matadi dans la province du Bas-Congo. C'est le commissaire supérieur de la police du district de Matadi, Georges Kouleka, qui l'a indiqué devant la presse au début de ce mois d'octobre. Des fœtus ont été retrouvés dans des caniveaux ou dans des toilettes, a-t-il affirmé, annonçant par la même occasion l'ouverture d'une enquête. Des cas similaires seraient aussi signalés ailleurs à travers le pays. Notons que l'avortement est une infraction en RDC. Les articles 165 et 166 du livre 2 du Code pénal ordinaire stipulent qu'une personne qui provoque l'avortement d'une femme risque une peine de servitude pénale allant de 5 ans à 15 ans de prison. Et lorsqu'il est provoqué par la femme elle-même, l'infraction d'avortement est punie de 5 à 10 ans de servitude pénale. Que faire pour lutter contre ce phénomène en RDC? Nous en parlons avec le docteur Léon Moubikaï. Il est gynécologue et député national, membre de la commission socio-culturelle à l'Assemblée nationale. Cette émission est coordonnée par J.R. Lungembo, Titi Mputu, Clovis Luboula, Dako Tambiki, la Santa, la réalisation et Nicole Ngaka sur la supervision, et Pierrot et la Mégie et à la présentation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et notons également que Alain Goy assure la mise en onde 081 890 6315. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous avons déjà en ligne notre invité, Dr. Léon Moubikaï. Vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierre.
Nous parlons des avortements clandestins. Vous avez suivi à l'introduction de cette émission. Tout est parti du Bas-Congo où la police a fait ses constats de plus ou moins 7 avortements en l'espace de 3 mois avec des fœtus qui ont été retrouvés soit dans les caniveaux, dans les toilettes, l'ouverture d'une enquête. Et aussi, les gens pensent qu'il faut beaucoup de sensibilisation. Mais bien avant de pouvoir aller plus loin pour voir entrer en profondeur de notre débat, échange avec les auditeurs, on peut commencer d'abord par quelques... concepts généraux. C'est quoi d'abord un avortement, vous qui êtes médecin et spécialiste dans les domaines?
Oui, un avortement, c'est toute interruption de la grossesse, de la conception à 22 semaines de l'évolution de la grossesse. Donc toute interruption qui peut être volontaire ou involontaire est considérée comme un avortement pendant cette période-là.
Et on peut avoir combien de types d'avortements? Est-ce que vous les classifiez, les avortements?
Oui, on les classifie, comme je viens de le dire là, en rapport avec les modes par lesquels on est abouti à l'avortement. Ça peut être un avortement spontané ou un avortement provoqué. Et l'avortement provoqué dans notre pays reste une infraction, comme vous venez de le dire. Mais il faut faire... mettre une nuance là-dessus. Les avortements provoqués peuvent être du type médical ou ça peut être un avortement provoqué dans le but d'interrompre la grossesse sans une raison particulière. Pourquoi j'ai dit dans le but médical? Dans certaines circonstances, vous pouvez remarquer que l'enfant est mal formé et sa malformation est incompatible avec la vie. Mmh. Et dans ce cadre-là, on peut faire un avortement, c'est ce que nous appelons l'avortement eugénique. Et il y a aussi des avortements d'ordre médical. Quand vous remarquez que la mère a une pathologie qui ne peut pas permettre l'évolution de la grossesse, qui met la vie de la mère en risque, par exemple une cardiopathie décompensée, certaines hémoglobinopathies, dans ces cas-là, on peut autoriser aussi de faire un avortement.
Oui, docteur,
s'il vous plaît. Un avortement thérapeutique.
Docteur, quand vous parlez de cardiopathie, vous parlez des autres termes, ça veut dire un problème qui touche par exemple le cœur, pour permettre aux auditeurs de comprendre.
Le cœur, à tel point que vous savez qu'avec la grossesse, il y a une augmentation, sur le plan physiologique, il y a une augmentation d'activité du cœur liée à un placement qui est augmenté et tout ça. et cela peut entraîner une insuffisance cardiaque. Et si on ne peut pas contrôler cette insuffisance cardiaque pour ne pas mettre la vie de la maman en danger, on peut autoriser de faire un avortement.
Okay.
Et quand je parle de l'autre côté, certaines malformations, donc vous pouvez trouver que il y a une agénésie rénale bilatérale. Donc par exemple, il n'y a pas, l'enfant n'a pas de rein. Le bébé qui va naître là n'a pas de rein. On ne peut pas vivre sans rein. Alors ça, on dit que cette malformation est incompatible avec la vie. Il y a, par exemple, vous remarquez que l'enfant n'a pas de tête, les anencéphales, comme on le dit. Un enfant ne peut pas vivre sans tête. Mm-hmm. Et dans ces cas-là, on parle d'un avortement eugénique. Donc voilà certaines circonstances où le médecin peut être autorisé de faire un avortement.
Mm-hmm. Et est-ce que pour procéder à ces avortements, le médecin y a-t-il une procédure? Cela veut dire demander par exemple auprès de la justice l'autorisation de le faire, ou cela revient au pouvoir du médecin avec la famille, bien sûr, et la femme qui est concernée?
Oui, en réalité, il fallait avoir même l'autorisation, étant donné que ce n'est pas légal dans ces pays de procéder par un avortement. Mais ce qui se passe en pratique, c'est l'arrangement des familles. Donc, on explique aux deux parents, aux deux futurs parents, voilà la situation que nous sommes en train de vivre. Si vous autorisez, on peut interrompre la grossesse. Bon, il faut aussi dire que là-dessus, il y a un problème de morale. C'est pas tout le monde qui le fait. Et on recommande à certains de le faire, mais là, c'est autorisé sur le plan scientifique de procéder à un tel avortement pour sauver la vie de la maman.
Et les autres types d'avortements, comme on a dit, c'est là où intervient le terme qui fait sujet débat aujourd'hui, les avortements clandestins, d'ailleurs.
Oui, on l'appelle clandestin seulement parce que ce n'est pas, tant que ce n'est pas légal, la plupart des... cas, on le fait dans les conditions très très mauvaises, parce qu'on est en train de se cacher. Il y a des gens qui procèdent dans les conditions où même l'instrument utilisé n'est pas adapté, les conditions même de travail ne sont pas adaptées, et c'est dans ce sens là qu'on l'appelle clandestin seulement parce que c'est pas légal dans ces pays. Mais dans certains pays c'est légal, on peut aller consulter le médecin et aller faire un avortement dans les conditions optimales, comme en France et la Chine et d'autres pays.
Voilà, on va revenir à vous, on vous garde en ligne, le temps d'écouter aussi les auditeurs. On a suivi les généralités, mais on pourra revenir avec vous ensemble, avec les auditeurs, surtout en ce qui concerne la lutte, parce que nous sommes encore dans les systèmes où l'avortement est clandestin, provoqué, comme on peut le dire, autant de termes qu'on peut utiliser, considéré comme illégal. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre tout cela? Nous avons Raphaël qui est à Guéména dans la province de l'Équateur, et aussi Ernest qui est à Matadi dans la province du Bas-Congo. On va vous accorder la parole, monsieur. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission consacrée, bien sûr, à la lutte contre les avortements clandestins.
Parole aux auditeurs.
Raphaël, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Guéména dans la province de l'Équateur. On vous écoute, Raphaël.
Oui, je voulais intervenir à ce sens-ci. L'avortement qui est maintenant officialisé par l'État, si peut-être une fille qui connaît son milieu, son compère, il avorte clandestinement avec un médecin, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais si arrivé que non, la fille tombe, peut-être elle est morte, aujourd'hui, maintenant, on va maintenant poursuivre la famille, on va poursuivre celui qui a avorté. Mais de toute façon, aujourd'hui, on les met maintenant au cachot. Demain matin, la police, elle a libéré parce qu'on a payé quelque chose. Alors comment maintenant, on va maintenant combattre ce système parce que c'est maintenant officialisé, et les gens de l'État et les gens de sécurité sont maintenant en train de démonter même le système d'avortement.
Oui, Raphaël, pour être plus précis, nous n'avons pas dit que l'État, il y a une loi qui autorise l'avortement, on n'a pas dit ça. Jusqu'alors, l'avortement est illégal en RDC. Le docteur a pu expliquer dans quelles conditions, sur le plan médical, on peut y arriver. Mais vous dites, malheureusement, qu'aujourd'hui, quand les avortements se font dans les hôpitaux, dans de bonnes conditions, par exemple, avec un médecin qui le fait, il n'y a pas de danger, personne ne les dénonce, on reste calme. Mais dès lors que la personne, il y a eu un danger, on arrête la personne, il va à la police, il est arrêté, il est libéré sous condition, comme on dit, et puis après il continue à aller de l'avant. Alors vous pensez que dans ces conditions, quand il y a l'impunité, ça sera difficile qu'on puisse lutter contre ces phénomènes? C'est ça votre point de vue, Raphaël? Vous êtes à Guéména dans la province de l'Équateur. Nous avons Ernest qui est à Matadi. Bonjour, monsieur.
Bonjour, Emelagie.
C'est Pierrot et la Meji. Oui, Ernest, on est parti de ce qui est arrivé à Matadi, mais depuis que cela, dans le début du mois d'octobre, bien sûr, que la police a mis cela à la place publique, bien sûr, c'est cette inquiétude par rapport à l'augmentation des cas des avortements clandestins. Y a-t-il eu aujourd'hui des mesures qui ont été prises à Matadi, des sensibilisations, par exemple, des arrestations pour lutter contre ces phénomènes?
Merci bien. Je pense que au niveau de Matadi, l'état d'avortement qu'on a rencontré ou qu'on a découvert ces jours-ci, c'est encore rien. Parce que depuis le mois de juillet, il y a aussi des filles qui sont venues déposer des fétiches comme ça. Et lorsqu'on a interpellé le service sanitaire, ils ont dit presque lorsque l'évaluation de ces enfants a été, ça peut être des grossesses de 3, 4, 5 mois. Donc, mais on n'a jamais arrêté ces filles-là. Et lorsqu'il y a avortement, il y a la fille qui trouve sa mort. Et au niveau des quartiers, on vous dit, cette fille a avorté et que sa mort est venue, la suite. On n'a jamais arrêté ni les membres des familles, ni pour les enquêtes, ni les garçons. Donc, on trouve que c'est normal. Et ces derniers jours ici, pour les chiens, c'est vraiment parce qu'il y a un tir, et ça commence à dégager, on découvre. Donc, pourquoi cette situation devient aussi grave? Moi, je pense que c'est à cause de cette prostitution qui est presque légalité. Et ces jeunes filles qui vivent de la prostitution ne supportent pas la grossesse. Parce qu'avec la grossesse, on ne peut plus continuer à ratir de son sexe. C'est comme ça que la police, ayant reçu l'information de la presse, n'arrive pas à mettre la main sur les filles qui avortent. Et peut-être aussi, ceux qui gèrent cette grossesse, elle peut en tant que présidente américaine commettre l'effet de jeter le pénis dans la commune de Matadi ou la commune de Ndou, et vice versa. Ils ne font pas là où ils arrivent. Mais au niveau des enquêtes et des recherches, vous pouvez se rendre compte. Dans des quartiers où on trouve une fille qui était grosse, et que la grossesse est portée disparue, on ne s'intéresse pas à dénoncer. Mais on apprend à la télévision ou sur les images, et on a ramassé alors que les habitants du quartier ne s'intéressent pas à dénoncer que non, chez nous, il y a tel coin, il y avait une fille qui était grosse, la grossesse est disparue et l'enfant est trouvable.
Voilà, merci. Merci Ernest. On a suivi, au-delà de l'impunité qui a été évoquée par notre ami de Guémena, Raphaël, mais il y a ces problèmes aussi, le manque de dénonciation. Personne ne dénonce, mais curieusement, les enquêtes n'aboutissent pas et on considère que la situation est devenue normale et le manque aussi d'encadrement de toutes ces jeunes filles qui se livrent à la prostitution, vous l'avez dit, tout cela devient difficile dans ces conditions de pouvoir lutter. Mais pour vous, efficacement, qu'est-ce qui doit être fait pour lutter aujourd'hui contre ces phénomènes, Ernest? Ernest, vous êtes avec nous?
L'éducation à la vie doit être enseignée dans les centres, les foyers sociaux où les enfants ne sont pas à l'école, dans le circuit normal, et à l'école, parce que depuis l'école primaire, il y a des jeunes qui sont capables d'avoir la grossesse. Donc, on doit essayer cette éducation à la vie, sensibiliser même les gens de santé qui peuvent passer dans des écoles pour les enfants, avec des projections de films ayant présentant des conséquences de l'avortement criminel. Et aussi déférer en justice les garçons qui arrivent à faciliter l'avortement. Lorsqu'il y a punition, lorsqu'on sanctionne, ça fait à quelques mesures réduire ces activités. Et surtout, à partir de l'espoir, par exemple, qu'on puisse créer une cellule de la police qui doit surveiller.
Voilà. Oui, là on est en train de vous perdre, Ernest, mais le gros a été fait, hein, du travail a été fait dans votre intervention. Vous avez dit qu'il faut plus de sensibilisation, commençant bien sûr par la famille, l'éducation à la vie, les foyers sociaux, dans les écoles, partout, on doit sensibiliser les garçons, on doit sensibiliser les filles sur les conséquences des avortements, mais il faut des sanctions. Il faut des sanctions et des unités spéciales aussi pour ce domaine. Merci beaucoup, Ernest. Vous êtes à Matadi, c'est dans la province du Bas-Congo, de là où est partie cette information sur l'inquiétude de la police suite aux plusieurs cas, n'est-ce pas, des avortements clandestins. Matadi, les auditeurs nous suivent sur 102.0 FM. Nous retournons ici à Kinshasa, dans la capitale. Jean, vous êtes avec nous. Bonjour, Jean.
Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour Radio Café, bonjour ces paroles auditeurs.
Mais avant peut-être de vous poser la question sur les mesures qu'il faut prendre pour lutter contre ce phénomène à Kinshasa, c'est un phénomène aussi qu'on observe, peut-être on a déjà vu des cas, on a déjà peut-être parlé dans les quartiers. Pour vous, à quoi attribuez-vous ces phénomènes des avortements clandestins?
Ok, merci de m'avoir accordé la parole. Ce phénomène est attribué premièrement aux parents. Pourquoi je commence par les parents? Parce que les parents sont censés surveiller les jeunes filles.
Mm-hmm.
Et nous remarquons que dans la plupart des cas, surtout pas seulement ici à Kinshasa, les avortements qui se font sont souvent en complicité avec la famille, c'est-à-dire avec la maman dans la plupart des cas. Parce qu'une maman qui sait que son mari est méchant, dès que son mari apprendra que sa fille est enceinte, ça sera terrible à la maison, alors ils s'attendent avec sa fille pour faire avorter.
Mm-hmm.
Alors, quand on va peut-être découvrir que la fille a avorté, on se limite seulement au niveau de dénoncer. Voilà, elle a avorté et puis on se limite là. Parfois même, c'est on contient les conseils de la famille pour qu'on cache même la nouvelle à papa. Et ça favorise déjà parce que tant qu'un enfant déjà, ou une fille, qui a commis le premier avortement, et que son père n'a pas su, ils ont traité la situation avec sa mère, la situation s'est calmée, quand elle se verra encore en chef, puisqu'elle connaît déjà la procédure, elle va encore commettre le même crime. Alors, et aussi, il y a d'autres responsabilités. Maintenant, j'arrive pour répondre à la question.
Mm-hmm.
Il y a les responsabilités partagées. La première responsabilité, je l'ai évoquée, c'est au niveau des parents.
Des parents, oui.
Au niveau de l'État. Parce que, au niveau de l'État, il y a quoi? Il y a l'impunité. Quand même on dénoncerait ou bien on arrêterait ces gens-là, les enquêtes n'aboutissent pas. On ne voit pas l'aboutissement des enquêtes. Alors, même si on arrête quelqu'un, aujourd'hui, on l'envoie à prison. La famille, avec la complicité de la police, on donne l'argent et puis on fait sortir la victime, disons, le coupable. Et à cela, ça favorise, ça mm-hmm. favorise toujours l'accroissement de l'avortement. Aussi au niveau du ministère de la Santé. Là, nous prenons, par exemple, le cas des pharmaciens qui vendent les produits. Ils savent que ces produits peuvent aider pour avorter. Tenez, quand on est pendant les grandes vacances, quelques jours avant la rentrée, passez dans les pharmacies, faites un sondage, vous allez remarquer qu'il y a certains produits qui s'achètent plus facilement et à grande quantité par les jeunes filles qui, pendant les vacances, ils ont contacté tel monsieur et ils ne veulent pas commencer l'année scolaire ou l'année académique avec la grossesse. Alors, quand vous voyez ces faits, nous disons qu'il y a les responsabilités qui sont partagées. Maintenant,
oui.
La plupart des cas, c'est les parents. Les parents doivent surveiller leur fille et puis parler un peu de la sexualité et non prendre la sexualité toujours comme un tabou.
Mm-hmm.
Parce que dans notre pays, on cite le sexe, donc on dit qu'on a tué. Non, il faut apprendre à l'enfant, à surtout aux jeunes filles.
Merci Jean. Merci beaucoup, Jean.
Comment se contrôler pour qu'elle n'arrive pas à commettre des crimes comme ça avec les avortements.
Merci beaucoup, Jean. Vous avez démontré clairement les responsabilités, comment elles sont partagées, les parents, l'État, les agents de santé, les infirmiers, les pharmaciens, tous ceux qui vendent les produits abortifs, n'est-ce pas, sans ordonnance médicale, tous ces problèmes. Mais vous pensez qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités, mais surtout qu'il y ait aussi la causerie, le dialogue entre les parents et les enfants sur la sexualité, que cela ne soit pas considéré comme un sujet tabou. On va écouter Adrien qui est à Calémi et revenir ici à Kinshasa pour entendre aussi notre invité qui va commenter ce point de vue des auditeurs. Adrien, vous êtes à Calémi dans le Katanga. Bonjour Adrien.
Bonjour Monsieur Pierrot et la Mingi.
Yes,
bonjour à tous les auditeurs de la radio Katanga.
Est-ce que la situation des avortements clandestins, est-ce qu'on en parle à Calémi ou c'est un peu plus particulier vu ce qui s'est fait dans d'autres villes, hein, que ce soit à Kinshasa ou à Matadi, comme on l'a évoqué au début de cette émission?
Ici, chez moi, s'il faut que je vous dise sincèrement, c'est devenu une monnaie courante. Donc l'avortement, ici, ce n'est même pas contrôlé par la police. Au moins, à Matadi, quand même, la police fait de l'enquête. Je vais vous gérer, parce que moi, je suis professeur de la biologie et je donne le cours de biologie à mon école.
Mm-hmm.
Je vous dis que les enfants ne sont pas suffisamment encadrés. Je prends d'abord en otage les parents, nos parents africains, qui savent seulement donc mettre au monde et ne pas cadrer leurs enfants, tant les garçons que les filles. Je vais vous donner donc la situation un peu. Vous voyez un parent qui va ériger sa maison, et à sa maison, à côté, faire une petite chambrette où il va loger son fils, par exemple, de 16 ans, de 17 ans. Le même parent dit que mon fils a déjà grandi, bon, il doit avoir son petit appartement à part ma grande maison. Bon, qu'est-ce que le parent d'abord inculque au petit garçon? Le petit garçon a déjà le feu vert d'appeler ses copines. Et vous savez, vous-même, il aurait tombé du fait que c'est déjà la grossesse. Et encore, le petit garçon, sans encadrement, il veut dire, par exemple, dans le cas des grossesses, comment éviter cette grossesse? Alors, la jeune fille, à la maison, les parents ne savent pas contrôler leurs enfants. Je vais vous donner, par exemple, la situation sur place.
Voilà.
Il y a des,
il y a des
robinets. Alors, l'un parent qui va laisser sa fille aller puiser des eaux à 20h, par exemple, il peut prendre un bidon à 20h ou à 19h, sans encadrement, sans suivi, et la fille rentre à la maison à 22h, il n'y a pas d'eau. Et qu'est-ce qu'elle faisait au robinet? Le parent ne peut même pas poser des questions. Or, le problème, c'est une monnaie courante. Même aux hôpitaux, les hôpitaux que nous avons aujourd'hui, un infirmier qui sait plus
on a des soucis avec
l'avortement d'une jeune fille
qui a
16 ans et qui peut même causer des problèmes dans la vie future. Vous-même, vous connaissez les conséquences de grossesses précoces dans la matière. Et aussi, je prends un autre point, l'éducation, par exemple, à l'école. Bon, il y a des classes comme deuxième secondaire, troisième secondaire. On devrait déjà, parce que là, l'enfant est dans l'adolescence. Je pense que le gouvernement pourrait prendre dans le programme national un peu sur la sexualité, ou soit le grossesse précoce, essayer d'avertir les filles, leur dire la conséquence et l'avantage du copinage, parce que elles ne sont pas vraiment informées. Ils pensent que vraiment le copinage, c'est peut-être faire la couite, ainsi de suite, bon, sans protection même. Mais je pense que si l'école, par exemple, pourrait l'école pourrait prendre ça en compte, c'est déjà l'instruction et c'est l'éducation.
Merci beaucoup.
Et pour terminer, je voulais aussi prendre
l'avantage,
surtout les victimes, ou soit les filles qui organisent la grossesse. Bon, en cas de grossesse, moi je trouve injuste quand on arrête seulement le garçon. Vous serez d'accord avec moi que c'est d'ailleurs la fille qui quitte sa maison et qui va chercher le garçon à son habitation. Et pourquoi seulement on doit incarcérer le garçon et libérer la fille? Dans le cas de grossesse, d'abord, il faut incarcérer et la fille et le garçon. Et encore, dans le cas grave de l'avortement, il faut prendre tous les deux côtés. Donc, même peine, et sur la fille, et sur le garçon. Parce que la fille elle-même, quand elle avorte, elle sait les conséquences.
Merci beaucoup, Adrien. Vous avez évoqué des causes et aussi des mesures qu'il faut prendre. Vous avez évoqué cette situation des filles académiques qui se retrouvent seules dehors la nuit pour aller chercher de l'eau jusqu'à 20h au robinet. Mais la situation, elle n'épargne pas la ville de Kinshasa. On voit aussi des filles qui se réveillent à 3h du matin, à 4h du matin, qui courent dans tous les sens avec des bidons pour chercher de l'eau. Et des fois, cette eau peut être dans un quartier éloigné. Ça peut être un quartier où il y a des garçons qui gèrent cette eau. On ne sait plus contrôler aujourd'hui la situation. Les résultats sont partagés. Merci beaucoup de ce point de vue. Nous allons écouter Godard, qui est à Kananga, pour terminer cette première série, et revenir à notre invité, le docteur Léon Bikayi. Godard, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute, Godard. Vous avez suivi les uns et les autres. Pour vous, qu'est-ce qui peut être fait concrètement pour lutter contre ce phénomène?
Merci. Chez moi, il y a ceci. Ici au Congo, pour éliminer un peu la violence sexuelle entre les jeunes, il faut d'abord sensibiliser les milieux éducatifs. Ça, c'est ce que je vais avancer en première position.
Mm-hmm.
Parce que les milieux éducatifs avaient presque toutes sortes de couches humaines pour ce qui concerne la jeunesse. Là-bas, on va les réciter. Et puis, nous allons nous intéresser beaucoup plus dans la famille où il y a deux parents qui envoient presque leurs enfants de n'importe quelle façon, tranquillement, quoi manger, les enfants.
Voilà. On a des petits soucis aujourd'hui avec tes lignes téléphoniques. Godard ne saura pas continuer vraiment. Nous allons revenir dans ce studio. Et puis nous avons en ligne le docteur Léon Bikayi à qui nous allons accorder la parole juste après quelques secondes pour commenter les premières interventions des auditeurs sur ce sujet consacré à la lutte contre les avortements clandestins. 081-890-6315. C'est notre numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Karine Ganimbaya reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir. dédicace@radiocapi.net.
Docteur Léon Bikaï, vous êtes avec nous?
Oui, Monsieur Pierrot, je suis avec vous.
Vous avez suivi le premier groupe d'auditeurs. Nous allons, en fait, les interventions sont parties des causes, bien sûr, et des mesures. Chacun a essayé d'avancer ce qu'il pense être, ce qui doit être mis en place comme mesure pour lutter contre les phénomènes. Mais vous intervenez en tant que médecin gynécologue, bien sûr, mais aussi en tant que député national, membre de la commission socioculturelle. Cela veut dire que vous pouvez avoir un regard dans tout ce qui a été dit par nos auditeurs, que ce soit sur le plan médical, que ce soit aussi sur le plan social, sur le plan juridique. En partant des causes, les auditeurs les ont ramassées, mais aussi ils sont entrés déjà dans la proposition des mesures pour lutter contre ça. Quel peut être votre point de vue eu égard à tout ce qui a été dit par le premier groupe d'auditeurs?
Oui, M. Pierrot, je suis vraiment impressionné parce que c'est un problème connu. Si vous avez bien suivi, tous les intervenants là ont une information spécifique concernant leur milieu.
Oui.
Et ce sont les mêmes causes qu'on trouve. Ils ont évoqué la pauvreté, ils ont évoqué le manque d'encadrement. Je pense que ce sont des problèmes réels. Mais au fait, il faut qu'on raisonne un peu plus en profondeur aussi. Les sexes restent tabous. Ils ont évoqué ça. Mais si nous ne prenons pas nos responsabilités, pas seulement les parents. Il y a les parents, il y a l'école et il y a aussi l'État. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'aller à l'école. Il y a les centres d'encadrement de jeunes où on doit parler sérieusement des sexes, où on ne doit plus les considérer comme tabous. Mais aussi, il y a des mesures, il y a des filles qui ne peuvent pas supporter. Il y a des mesures d'encadrement qu'on doit montrer clairement à ces filles, qu'on aille au-delà. Il y a la contraception dans ces pays. La contraception n'est pas réservée seulement aux femmes mariées. La contraception, tout le monde est libre d'utiliser la contraception. Et ne pensez pas que seulement les femmes, parce que là ils ont évoqué plus les femmes, les jeunes filles.
Les jeunes filles, oui.
Mineurs, tout ça, mais même des femmes mariées font des avortements criminels. Avec toutes les conséquences que nous connaissons, pouvant aller jusqu'à la mort, il y a les saignements, il y a les infections, et des conséquences à court terme, à long terme, même la stérilité. Donc, je pense qu'il faut aller plus en profondeur, que chacun prenne ses responsabilités, mais aussi qu'on éduque, qu'on ne considère pas le sexe comme un tabou et qu'on vulgarise les moyens de contraception.
Oui, docteur, parce que vous avez évoqué la conception du terme contraception, mais vous connaissez bien le problème aujourd'hui de la société congolaise parce que vous êtes de cette commission socioculturelle, c'est ça le grand problème. Faudrait-il aujourd'hui dans une famille que le parent commence déjà à dire à leur fille, voilà, vous n'êtes pas encore marié, vous êtes chez moi à la maison, mais il y a aussi les moyens de contraception. Tout de suite, ça se transforme en un stimulus. C'est comme si on disait, les parents, ils donnent la carte blanche aux filles pour aller se prostituer, mais pourvu qu'elles utilisent des méthodes de contraception. Voilà un peu l'autre paire de manches, comment cela peut être interprété au niveau de notre conception sociale, bien sûr, dans la société congolaise.
Oui, M. Pierrot, je vous comprends. Mais ne pas en parler, c'est exposer l'enfant. Bah, dans la contraception, il y a même des méthodes pour éviter d'avoir. On ne voit que l'avortement. Mais peut-être que derrière celui qui a donné la grossesse, il y a aussi d'autres maladies, des infections sexuellement transmissibles, dont le VIH-SIDA. Mais si on n'en parle pas, si l'école ne peut pas en parler, si les parents ne peuvent pas en parler, qui va en parler? Qui va éduquer ses enfants? Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà des passions et qu'on voit réellement l'avenir de nos enfants. On ne dit pas que commence à utiliser la contraception, mais on dit à l'enfant, si vous n'êtes pas, mais si vous connaissez déjà ça, si vous n'êtes pas en mesure, vous devez utiliser la contraception.
Mais il y a ce problème, le manque de dénonciation, parce qu'on l'a suivi. En principe, on peut regarder dans le quartier, on sait que cette jeune fille, elle est passée ici, on l'a vue, elle est allée dans un centre, elle s'est fait avorter, les gens murmurent dans le quartier, personne n'a le courage d'aller dénoncer. Et même quand même on aurait dénoncé, il y a tous ces problèmes liés aujourd'hui à la libération, n'est-ce pas, à la liberté provisoire. On voit comment les gens qui sont arrêtés des fois pour des cas de viol, demain on les retrouve en circulation, tous ces problèmes. Alors comment les mesures peuvent être conjuguées en synergie pour y arriver concrètement, surtout en ce qui concerne la dénonciation?
Oui, mais tout le monde ne va pas se comporter comme un policier dans les quartiers. Si quelqu'un est parti dans un centre de santé parce qu'elle est fille, parce qu'elle a 16 ans, parce qu'elle a un mauvais comportement, il faut déjà dénoncer qu'elle est enceinte.
C'est par là qu'il faut commencer.
Oui, je pense. Je pense que dénoncer, c'est bien, mais tout le monde ne peut pas se comporter en policier et vous n'aurez pas de preuves. Moi, je pense que la prévention vaut mieux qu'attendre que la fille aille avorter pour qu'on puisse dénoncer. Non, il faut aller dans le sens de la prévention.
Voilà.
Parler sérieusement avec nos enfants et aussi leur expliquer les conséquences et leur montrer tout ce qu'ils doivent faire pour éviter de tomber enceinte.
Voilà. Alors, on va revenir à vous. Le temps d'écouter Mike Semis, je crois, qui est à Kindu, en province de Maniemaoui Semis, qui est à Kindu. Mais nous avons aussi Rachel, qui est à Isiro. Ça fait plaisir d'avoir la voix féminine sur les antennes, surtout en ce qui concerne ces dossiers des avortements, parce que ça concerne bien sûr les femmes. Nous allons revenir à eux, directement d'ailleurs avec Mike, qui est à Kindu. Bonjour Mike.
Bonjour.
Vous avez suivi, vous avez suivi les uns les autres. Oui. Notre invité qui a dit qu'il faut plus penser à la prévention qu'attendre qu'il y ait des dégâts pour chercher comment corriger. Mais au niveau des Kindu, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au niveau de la société dans la lutte contre les avortements? Y a-t-il des actions qui sont menées, que vous voyez, qui se font, eu égard à tout ce qui a été cité par le précédent auditeur?
Moi, personnellement, je dirais non, parce qu'à Kindu, je vois, il n'y a rien. Si je sais, je vais suggérer à l'État congolais d'autoriser les avortements. Hein? Donc, aux parlementaires, de mettre une loi sur laquelle on autorise, comme en France ou en Chine, et à la population de dénoncer lorsque dans votre quartier vous avez vu qu'il y avait une fille qui avait une grossesse, elle a avorté, de dénoncer et aux jeunes garçons et aux jeunes filles l'utilisation de préservatifs.
Voilà, merci Maïs, vous êtes parti tout droit. Premièrement, vous pensez qu'il faut finir par légaliser l'avortement. On sait qu'il y a eu un grand débat il y a quelques années avec la ratification du protocole de Maputo. On sait qu'il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup d'organisations se sont mises plutôt à lutter contre la ratification pour que la RDC ne puisse pas ratifier le protocole de Maputo qui pour légaliser l'avortement. Mais vous pensez, vous, qu'il faut finir par le faire?
Moi, je pense que ça va réduire
le problème.
Le taux de la mortalité.
Merci.
La cause, la majorité des filles ne finissent par la mort.
Et pour vous, vous pensez qu'il faut finir par légaliser l'avortement, mais vous pensez aussi qu'en attendant, il faudrait procéder à la dénonciation, mais aussi à l'éducation, comme l'a dit notre invité. Merci beaucoup, Maïs de Kindu. Nous avons Rachel qui est à Isiro, en province orientale. Bonjour, Rachel. Vous avez suivi les uns et les autres, Rachel. Pensez-vous que les filles sont assez sensibilisées et éduquées en matière de sexualité pour prévenir les cas de grossesse et aussi ces cas d'avortement?
Bon, en fait, moi, je dirais que tout ça, c'est déjà traité. Mais moi, permettez-moi de dire la faute qui veut se parler, parce que je ne suis jamais intéressée à ça. Parce que c'est quoi, on voit là des pharmacies partout, on voit des médicaments pour faire l'avortement. Mais si j'étais moi, intéressée à ça, j'aurais dû interdire tout ça, ça ne m'avait pas de venir mais maintenant. Mais la première chose, c'est de voir si les hôpitaux qui font ça, c'est l'avortement, je vois. Non, je ne sais pas quoi dire, mais mon problème, c'est surtout que je m'arrête au niveau du gouvernement.
Voilà, on a perdu Rachel, mais Rachel disait que pour elle le grand problème, ce sont les tenanciers des pharmacies, les gens qui vendent des médicaments. Quand tu vois une fille venir acheter un médicament sans ordonnance, par exemple, elle vous dit j'achète 10 comprimés de quinine ou j'achète tel médicament ou n'importe quel médicament, peut-être le pharmacien, il connaît quels sont les médicaments qui peuvent être utilisés pour provoquer des avortements. Et alors, à ces conditions, il faut se poser des questions. Pourquoi vous achetez ces médicaments sans ordonnance médicale? Mais du côté du pouvoir public, Rachel pense qu'il serait mieux de pouvoir contrôler, surveiller dans les hôpitaux ce qui s'y passe pour savoir s'il y a des cas de pratiques des avortements criminels, comme l'a dit notre invité. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission consacrée à la lutte contre les avortements clandestins. Nous avons aussi les auditeurs qui nous ont écrit par l'adresse pa@radiocapi.net, mais aussi par la page Facebook des Paroles aux Auditeurs pour intervenir dans cette émission, comme Héritier Miringa qui dit ceci: il faut seulement dépénaliser l'avortement et il n'y aura plus d'avortements clandestins, en plus qui sont souvent dans des conditions inhumaines. Pour lui, il rejoint Maïs de Kindu qui pense qu'il faut aujourd'hui prendre une loi sur la légalisation de l'avortement. Nous aurons aussi en direct de Matadi, Madame Odette Fayamon, qui est coordonnatrice de la maison de la femme dans le Bas-Congo, qui pourra nous dire ce qui est fait comme effort sur place et dans la lutte contre ces phénomènes. Mais le temps d'écouter Yannick Ethan Kaombo qui dit ceci: légaliser l'avortement, c'est laisser le moyen de protéger nos filles, nos mères. En légalisant, on mettra un terme aux pratiques des charlatans qui, des fois, conduisent nos filles à la mort. Je ne sais pas si je vais en choquer certains, mais l'avortement est un droit que la femme a droit de réclamer, comme les droits à l'éducation, la parité. C'est un même point de vue que partagent Michel Kaneki et Joël Tamboué. Kani Lubango qui est à Goma dit ceci: il faut que le gouvernement finance les mariages des jeunes. Ça peut être une bonne innovation, qui est tout ce qu'ils sont en train de créer. Prendre par exemple le financement de la francophonie et remettre aux jeunes pour aller doter. Pourquoi ces idées n'arrivent pas aux gens qui dirigent? Parmi les causes d'avortement, c'est l'impossibilité des uns et des autres aussi de fonder des foyers. Ce sont les points de vue des auditeurs qui sont intervenus par la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Nous allons à Matadi. Madame Odette Fayamon, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Nous faisons cet échange avec les auditeurs sur les moyens de lutter contre les avortements clandestins. On a eu plusieurs propositions, n'est-ce pas, dans cette émission. Il y en a qui pensent qu'il faut d'abord beaucoup de sensibilisation, l'éducation de la jeune fille. Il y en a qui sont allés pour proposer aussi la légalisation de l'avortement pour mettre fin à tout cela. Vous dirigez la maison de la femme dans le Bas-Congo. L'information est partie de ce qui a été découvert à Matadi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites sur terrain dans la lutte contre ces phénomènes à Matadi, dans la province de Bas-Congo?
Bon, merci pour la parole. Bon, je dirais ici, personnellement, à la maison de la femme, nous avons initié un cours d'éducation à la vie que nous livrons à nos apprenantes. Bon, pour nous, c'est un moyen aussi de mettre fin à ces avortements quand les enfants sont formés et informés. Donc, dans ce qui nous concerne, c'est la lutte, c'est basé sur ce point-là. Et en plus de cela, il y a des sensibilisations qu'on fait à travers les ONG pour sensibiliser les femmes contre l'avortement, sensibiliser les femmes contre le VIH. Donc ça aussi, nous participons. Donc c'est ça concrètement qu'on fait. Mais je crois le tout n'est pas fait. Donc il y a beaucoup à faire, comme les autres auditeurs ont dit, les responsabilités étant partagées. Les solutions aussi doivent être trouvées à tous les niveaux, donc au niveau de l'État, au niveau des parents, au niveau des enfants eux-mêmes, ou au niveau des médecins qui pratiquent ces avortements-là, ou au niveau de la famille, de l'école. Donc je crois que les solutions doivent être trouvées à ces différents niveaux-là pour éradiquer ce problème.
Mais madame, nous savons aussi qu'il y a eu, vous rappellerez, quelques années, quand il s'agissait bien sûr de la ratification du protocole de Maputo sur la légalisation de l'avortement, on a vu beaucoup d'organisations, que ce soit féminines, que ce soit de la société civile, des églises aussi, qui se sont levées pour dire qu'ils ne souhaitaient pas que la RDC puisse ratifier ces protocoles. Mais les auditeurs proposent aussi la légalisation, pensez-vous, peut-être d'une manière individuelle ou dans la structure, qu'une loi peut résoudre ces problèmes, qui peut être associée bien sûr à toutes les autres mesures que vous prenez? Cette loi peut-elle résoudre les problèmes aujourd'hui?
Bon, moi je suis contre cette loi. Bon, en tant que parent, en tant que chrétienne, en tant que formatrice, je suis contre. Parce que je me dis, soit libéralise l'avortement, c'est livrer nos filles dans la rue. Parce que les filles vont se dire, je peux faire ce que je veux, et l'État reconnaît, on va m'apporter. Je crois que là, vraiment, nos filles seront exposées. Les garçons aussi, parce que les responsabilités aussi sont partagées, la fille, contracte la grossesse avec un homme, donc les deux doivent aussi être sensibilisés. Donc pour moi, je trouve qu'au stade actuel, libéraliser l'avortement, officialiser l'avortement, c'est une mauvaise chose.
Merci beaucoup, madame. Merci.
Moi, je suis prendre au stade actuel. Peut-être plus tard, on va évoluer comme les autres États-là, peut-être. Mais à ce moment-là, c'est c'est un danger réel pour nos filles et pour nos garçons.
Mmh. Merci beaucoup, Madame Odette Fayama. Vous nous avez appelé de Matadi, dans la province de Bakongo. Vous pensez que procéder aujourd'hui à la légalisation de l'avortement, c'est dangereux? Pourquoi? Parce que on risque peut-être de ne pas avoir des garde-fous. Le garçon pourront dire aujourd'hui, voilà, ça y est, la loi m'autorise, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les filles la même chose. Vous pensez qu'on n'est pas encore arrivé à l'étape où on peut aujourd'hui légaliser l'avortement? Je rappelle que vous êtes coordinatrice de la Maison de la Femme dans la province de Bakongo. Nous avons Bruce qui est à Lubumbashi, au Katanga. Bruce, bonjour.
Bonjour, bonjour monsieur.
Vous avez suivi, Alors, Bruce, vous avez suivi les uns et les autres, hein, c'est avis partagé, les uns qui pensent, ceux qui nous ont écrit, ceux qui sont aussi passés en direct, qui pensaient aussi qu'il faut procéder par la légalisation. Vous venez de suivre Madame Odette qui pense qu'on n'est pas encore arrivé à l'étape où on peut le légaliser, mais quand même nous avons besoin d'aller avec toutes les autres procédures qui peuvent être possibles pour lutter contre les phénomènes. Quel est votre point de vue?
Voilà, mon point de vue résulte sur le fait que l'encadrement pour moi passe avant tout. Donc l'encadrement dans le sens de l'éducation devait être apporté à tous les niveaux. À tous les niveaux, il ne s'agit pas ici simplement de, je ne sais pas, des institutions de la République qui doivent aussi faire leur part, mais l'encadrement doit aller à tous les niveaux. Je parle là de la cellule de base qui est la famille, et ainsi que tous les aînés qui sont déjà dans l'âge de la maturité, qui comprennent bien la sexualité, qui pourraient bien sûr intervenir pour essayer d'aider la jeunesse ou les jeunes gens qui malgré eux, prennent plaisir de naviguer sur un terrain qu'ils ne maîtrisent pas trop bien. Alors, pour moi, le plus grand problème, c'est d'abord pour lutter contre ces avortements, c'est d'abord de lutter un peu. Je prends l'exemple des professionnels des sexes. Tout ce que l'on voit sur les rues, les avenues, tous les camps qu'on prélève ici à la radio, moi je pense que ce n'est pas forcément les enfants, comme on dit généralement en Ngala, Bamandaku. Donc c'est aussi ces gens qui prennent les tests comme job et qui arrivent à connaître ces cas et abandonnent ainsi des enfants comme ça dans la rue. Alors il faudra aussi encadrer ces gens-là. Je n'ai pas entendu un auditeur qui a fait mention sur ces professionnels des sexes. Vraiment, je n'imagine pas bien de pouvoir jouer avec le gaz ou le carburant sans pourtant prévenir le feu. Alors il faudra aussi encadrer, même à ce niveau-là, tous ces professionnels des sexes pour essayer de canaliser et d'éviter à tout prix tout ce qui est comme avortement. En ce qui concerne la famille, tous ces enfants qui se retrouvent en famille, des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons, moi je pense que la famille doit être la cellule de base, comme on l'a définie, pour secourir un peu l'éducation de la sexualité. Je prends un exemple qui est mon propre exemple. On n'a pas eu le temps avec nos parents, en grandissant, de pouvoir parler de façon sérieuse de la sexualité. Ce sont des choses que nous avons appris avec l'éducation reçue en famille, l'éducation reçue à l'école, et ce que nous avons trouvé dans la rue. Et cette somme, si on a réussi quand même une bonne éducation positive, ça résulte à ce que l'on définisse un peu les règles de sa vie. Mais ce n'est pas la chance donnée à tout le monde pour pouvoir avoir cette maîtrise. Alors, moi, j'estime par là que les institutions de la République, les aînés, y compris les parents, tout le monde qui maîtrise déjà bien ces terrains, pouvait venir en aide à tous ces jeunes pour pouvoir éradiquer ces problèmes. Voilà ma contribution.
Merci beaucoup, Bruce. Merci beaucoup, Bruce. Vous êtes à Lubumbashi. Vous êtes étonné qu'aucun auditeur n'ait fait allusion aux professionnels de sexe. C'est ça même le rôle des paroles aux auditeurs. C'est une émission de complémentarité. C'est mieux que ce soit venu aussi de vous. Quand quelqu'un d'autre ne l'a pas dit avant vous, le fait que vous l'avez ajouté, c'est très important. Il faut l'encadrement des professionnels de sexe parce que tous ces avortements, ce ne sont pas seulement de jeunes filles, mais il y a aussi ces professionnels qui sont abandonnés, qui ne sont pas surveillés, que ce soit par rapport aux maladies, que ce soit aussi par rapport aux grossesses qu'elles peuvent attraper. Mais le grand problème aujourd'hui, c'est la cellule de base qui est la famille, où tout doit commencer par la cellule, l'encadrement, le dialogue au sein de la famille. C'est le point par lequel on doit commencer. Merci beaucoup, Bruce de Lubumbashi au Katanga, où les auditeurs nous suivent sur 95.8 MHz, 081-890. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission consacrée à la lutte contre les avortements clandestins.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Docteur Léon Moubikaï, vous êtes avec nous. On est intervenu à la première partie. Vous avez expliqué comme médecin, mais on nous entend aussi à la partie juridique, hein, parce que vous avez suivi les auditeurs qui sont allés plus loin, qui ont dit aujourd'hui il faut lever les tabous et légaliser l'avortement. Comme je le disais, il y a eu un débat qui a divisé la société congolaise il y a quelques années autour de la ratification du protocole de Maputo. Vous avez suivi Madame Odette qui pense que ça ne peut pas résoudre le problème. Ça peut être encore plus dangereux si peut-être il n'y a pas des garde-fous, mais en tant que député et aussi médecin, comment on peut concilier les deux points de vue de ceux qui pensent qu'il faut finir enfin par légaliser l'avortement, docteur Léon?
Oui, merci beaucoup, monsieur Pierrot. Ça, c'est un domaine très, très, très glissant. Et je vais vous donner mes réponses comme l'homme scientifique et l'homme de la loi, comme je légifère pour le moment,
oui,
mais aussi comme un chrétien sur le plan moral. Je commence par là. La vie est sacrée. Non seulement la Bible le dit, et même la Constitution de la République le dit. La vie est sacrée. On ne peut pas porter atteinte à la vie.
Okay.
Dans ce sens-là, vous allez trouver toujours les moralistes qui vont monter pour dire il ne faut pas légaliser, il ne faut pas ratifier le traité de Maputo et tout
voilà.
ça. Mais j'ai apprécié aussi un auditeur qui a parlé de la légalisation. C'est pas mal, mais ça a des conséquences. On aura à retoucher plusieurs tests autour de ça. Vous avez, au début de cette émission, évoqué sur le plan légal.
Oui, oui, les dispositifs.
C'est que la loi
sur, oui, du code pénal, oui.
Voilà. Je pense qu'on sera obligé de toucher à ça. On sera obligé de toucher même à la Constitution.
À la Constitution, oui.
Parce que c'est là où on définit la vie aussi. Donc c'est un processus un peu plus long. Et aussi, moi, je suis en train de penser, et j'insiste, que la prévention vaut mieux que tout ce que nous sommes en train d'évoquer pour le moment. Il y a des choses plus simples. Même, moi, je suis médecin, je suis gynécologue. Vous savez que je ne suis pas couvert suffisamment sur... Il n'y a pas une loi claire sur la contraception dans ce pays. Il faut commencer aussi par là. Donc, ce sont les éléments que nous pouvons évoquer peut-être pendant ce mandat ici. Mais vous connaissez ce pays. Je pense que c'est parmi les pays qui fabrique beaucoup de lois, mais l'application est presque nulle.
Il pose problème, voilà.
Oui, l'application est presque nulle. Il y a une loi sur les violences sexuelles. Vous avez évoqué ici. Vous-même, vous l'avez évoqué. Il y a une loi sur les violences sexuelles. Et dans cette loi, on dit même, pour un majeur qui oblige à une mineure de porter sa grossesse, c'est une infraction. Et c'est ce que nous vivons. Dans la plupart des cas, tout ce que nous parlons ici, on parle, on insiste beaucoup sur les mineurs. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Et il faut vulgariser déjà des lois qui existent pour permettre à la population de comprendre ce qui se passe. Vous savez, il y a un auditeur qui a évoqué là-bas les professionnels des sexes. Mais il y a plusieurs études qui ont fait mention de la prudence chez les professionnels des sexes. Au Kenya, vous savez, quand on a étudié le VIH-SIDA chez les professionnels des sexes, c'était la classe la moins touchée, parce que elles, dans la plupart des cas, elles savent qu'il faut utiliser les préservatifs. Et les préservatifs ont une double protection. Il y a la protection contre la grossesse et il y a la protection contre
les maladies,
les IST, voilà, dont le VIH-SIDA.
Voilà.
Donc, dans ces milieux-là, on trouve qu'il n'y a pas vraiment de grands problèmes. Le grand problème, c'est nos enfants, ceux qui n'ont pas suffisamment le message. Parce que les professionnels de sexe, ils savent qu'ils doivent utiliser ça. Sinon, ils ne savent pas avec qui ils sortent. Mais nos enfants, nos mères, ceux qui savent qu'il suffit de faire, de sortir avec un homme deux, trois fois, on fait confiance et on jette le préservatif. Ce n'est pas le cas avec les professionnels de sexe.
Voilà. C'est vrai qu'il faudrait aujourd'hui à toutes ces mesures coordonnées, mais parce que ces cas que vous avez évoqués, bien sûr, autour de la légalisation, c'est vrai qu'il y a, tout un arsenal juridique qu'il faudrait compléter. Si serait mieux de parler de cela, il y a le code pénal qu'il fallait revoir. Il faut revoir aussi la Constitution. Il faut revoir autant d'articles. Mais mieux vaut d'abord commencer par tout cet engagement dans la prévention. On va écouter les deux derniers auditeurs pour revenir à vous et conclure cette émission. Nous avons Alain qui est à Goma, Arsène est à Kikuit. Alain, on est avec vous. Bonjour.
Ok, bonjour.
Vous êtes à Goma, au Nord Kivu, on vous écoute, Alain.
Normalement, moi, j'aimerais dire que la loi est claire. À son article 167, à son article 167 et 166 du code pénal livre 2, il faut justement est tout. Donc, on provoque. On ne peut pas provoquer la grossesse. Il y a d'abord quand la grossesse, il y a d'abord la conception. La conception commence dès la naissance, dès la conception jusqu'à la mort. Ça, d'abord, la grossesse. En matière de concevoir, quand on conçoit, on ne peut pas d'abord provoquer la grossesse. Dès qu'on provoque la grossesse, il y a toujours l'infraction. Je pose la question à l'invité, je le crois bien qu'on ne peut pas réviser la Constitution parce que même à l'article 60, Dieu dispose que nul n'est censé ignorer la loi. Et quand on ne peut pas ignorer la loi, on connaît que la loi, donc on montre qu'on est clair qu'on ne peut pas provoquer la grossesse, ça constitue toujours une infraction. Et pour que l'infraction d'adultère soit consommée, pour que l'infraction
d'avortement
de la soit consommée, il y a d'abord les éléments, il y a l'élément matériel qu'on appelle d'abord l'élément matériel, est-ce que d'abord il y a une grossesse. Il y a ce qu'on appelle R. Qu'est-ce qu'on a donné? D'abord, qui a donné le médicament? Qui a donné le médicament pour provoquer
la grossesse? Oui, Alain. Et là, vous êtes revenu, en fait, de ce que la loi dit, qu'il faudrait, dans l'esprit de ce que vous dites, il faut rester dans les limites de ce que la loi dit. Quand il y a avortement, il faut condamner, il faut mener toutes les enquêtes et tous les co-auteurs, n'est-ce pas, de cette infraction doivent être punis, comme le dit la loi. Merci beaucoup, Alain. Vous êtes à Goma. On va terminer avec vous, Arsène. Vous êtes à Kikuit. Bonjour. Arsène, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, je vous écoute. Mon avis est...
En bref, oui.
Alors, mais le problème de l'avortement, c'est un problème de l'éducation. Le problème de l'éducation est résolu au niveau de l'école. Moi, je suis un activiste de l'école. À partir de l'école, on apprend tout. C'est là où on apprendra à l'enfant, au jeune adolescent, de maîtriser sa vie sexuelle, que tout le monde sait que la sexualité vient de l'instinct. L'instinct n'est pas maîtrisable. Donc, à partir de l'école, si nous parvenons à maîtriser l'école, vous verrez que ce problème sera facilement résolu. Pourquoi je le dis? Parce que moi j'ai un âge un peu avancé, je ne veux pas dire que je suis vieux, mais à notre époque, l'école était solidement assise plutôt. Parce que à partir de l'école, on avait une certaine discipline. Et cette discipline-là, mais de fait seulement de jeter un regard amoureux vis-à-vis d'une fille, c'était presque une infraction à l'école. Donc, de là, on pouvait maîtriser la vie sexuelle. Comme c'est une vie qui est instinctive, il faut plutôt chercher à maîtriser l'école. Nous devons revenir à ce stade-là. C'est l'État qui est responsable de l'école doit reprendre l'école en main. La loi, toute cette théorie, l'Église, tout ça, ça viendra après. D'abord, c'est l'école, l'éducation et la formation, l'instruction. Si nous allons là, nous réussissons, je crois qu'on va diminuer les taux des avortements. Je ne pouvais pas prendre beaucoup de temps, mais il y a beaucoup d'exemples que je peux donner.
Merci.
Et personnellement, j'ai tout
beaucoup.
Revient à l'éducation et à l'instruction.
Merci beaucoup, Arsène. Tout revient à l'éducation. Il faut que l'État puisse reprendre l'école. Il faut renforcer l'école. C'est là qu'on peut parvenir à réduire ces cas d'avortement clandestin. Mais nous avons aussi deux auditeurs qui nous ont écrit, Moïse Chimbela à Lubumbashi au Katanga. Au courant de cette semaine en France, il y a eu une association des femmes qui plaide à ce que le gouvernement légalise l'avortement. Je crois qu'on doit laisser la femme s'est décidé d'avorter ou de garder l'enfant. Je crois bien en France, c'est plutôt la légalisation qui est en cours, mais plutôt le débat a tourné autour de mariage homosexuel. Mais il y a aussi aux États-Unis d'Amérique où le débat divise aussi la société. Faudrait-il ou non laisser la femme décider de mettre fin à l'évolution de sa grossesse, comme je l'ai dit. La question qui a aussi divisé à un certain moment la société congolaise, on se rappelle il y a quelques années. Chantal Faïda Moulenga-Biouma, à Goma, au Nord Kivu, pour lutter contre ces pratiques, il revient aux parents, églises et au gouvernement congolais d'éduquer les jeunes sur les méfaits de ces pratiques et, si possible, voter une loi en la matière par les parlementaires. Voilà le point de vue des auditeurs qui concluent cette émission. Nous allons vous accorder la parole, Dr. Léon Moubikiaï, en 2 minutes et demie. Vous avez suivi les uns et les autres. Le phénomène, il touche la société congolaise. C'est très inquiétant. Les chiffres, comme on les a évoqués à Matadi, c'est ce qui a été rendu public, mais ce qui se fait clandestinement dans sur toutes les avenues, on ne sait pas. C'est un phénomène, un problème réel qui touche la société congolaise. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir autour de ces dossiers sur la lutte contre les avortements clandestins?
Oui, merci beaucoup, M. Pierrot. Moi, je suis suffisamment satisfait parce que ce n'est pas un secret.
Oui.
Tout ce que les auditeurs ont évoqué ici, c'est ce que nous vivons dans la société. Et nous pouvons dire qu'il faut plus qu'on se penche sur la participation de tout le monde. La participation de tout le monde, la famille, l'école et l'État. C'est normal. Et pour le moment, consacrons-nous à la prévention. Parce que les tests ne seront pas changés en un jour.
Oui.
Allons dans le sens de la prévention pour protéger nos enfants et appliquer déjà les lois qui sont déjà établies pour le moment. Et ces lois qui sont établies, jusqu'à preuve du contraire, l'avortement reste criminel, clandestin et tout ce qu'on peut dire, c'est illégal dans ces pays.
Voilà.
Donc protégeons nos enfants.
Merci.
Avec l'éducation. Démystifions un peu les sexes. Parlons clairement à nos enfants pour leur avenir.
Merci.
Voilà ce que je peux dire et je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les auditeurs.
Merci beaucoup, Dr. Léon, d'avoir accepté votre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes médecin, vous êtes gynécologue et député national, membre de la commission socioculturelle à l'Assemblée nationale. On va se retrouver demain, vendredi, et Parole aux auditeurs sera en direct du village de la francophonie au Stade des Martyrs pour une émission spéciale en marge du 14e sommet de la francophonie. La RDC doit-elle rester francophone? C'est la question au centre de l'échange demain au stade de Martyrs. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. J.R. Lungembo, Titim Poutou, Clovis Luboula, Dako Tambikila et Alain Goy qui était au Royaume des Machines. Puis la main, je vous la présenter. Nicole Ngaka qui l'a supervisé mais qui était aussi en direct du stade de Martyrs avec Okapi Service. Merci à tous mais surtout ne vous déplacez pas parce que le programme continue sur Radio Okapi. Au revoir.